Les repoussoirs. Chapitre 1. À Paris, tout se vend, les vierges folles et les vierges sages, les mensonges et les vérités, les larmes et les sourires. Vous n'ignorez pas qu'en ce pays de commerce, la beauté est une denrée dont il est fait un effroyable négoce. On vend et on achète les grands yeux et les petites bouches, les nez et les mentons sont cotés au plus juste prix. Telle fossette, tel grain de beauté représente une rente fixe. Et comme il y a toujours contrefaçon, on imite parfois la marchandise du bon Dieu, et on vend beaucoup plus cher les faux sourcils faits avec des bouts d'allumettes brûlées. Les faux cheveux attachés au chignon à l'aide de longues épingles noires. Tout ceci est juste et logique. Nous sommes un peuple civilisé, et je vous demande un peu à quoi servirait la civilisation si elle ne nous aidait pas à tromper et à être trompés, pour rendre la vie un peu moins banale. Mais je vous avoue que j'ai été réellement surpris lorsque j'ai appris hier qu'un industriel, le vieux Durandeau, que vous connaissez comme moi, a eu l'ingénieuse et étonnante idée de faire commerce de la laideur. Que l'on vende de la beauté, je comprends cela. Que l'on vende même de la fausse beauté, c'est tout naturel, c'est un signe de progrès. Mais je déclare que Durandeau a bien mérité de la France, en mettant en circulation dans le commerce cette matière morte jusqu'à ce jour qu'on appelle laideur. Entendons-nous. C'est de la laideur laide que je veux parler, de la laideur franche vendue loyalement pour de la laideur. Vous avez certainement rencontré parfois des femmes allant deux par deux sur les larges trottoirs. Elles marchent lentement, s'arrêtant aux vitrines des boutiques, ayant des rires étouffés, traînant leurs robes d'une façon souple et engageante. Elles se donnent le bras comme deux bonnes amies, se tutoient le plus souvent, elles sont vêtues avec une égale élégance et paraissent avoir le même âge. Mais toujours l'une est d'une beauté convenable encore, elle a le visage insignifiant, on ne se retournerait pas pour la mieux voir, mais s'il arrive par hasard qu'on l'aperçoive, on la regarde sans déplaisir. Toujours l'autre est d'une atroce laideur, d'une laideur qui irrite, qui fixe le regard, qui force les passants à établir des comparaisons entre elle et sa compagne. Avouez que vous avez été prise au piège et que parfois, vous vous êtes mise à suivre les deux femmes. Le monstre, seul sur le trottoir, vous eût épouvanté. La jeune femme au visage muet vous eût laissé parfaitement indifférent. Mais elles étaient ensemble, et la laideur de l'une a grandi la beauté de l'autre. Eh bien, je vous le dis tout bas, le monstre, la femme atrocement laide, appartient à l'agence Durandeau. Elle fait partie du personnel des repoussoirs. Le grand Durandeau l'avait loué au visage insignifiant à raison de 20 francs la course. Chapitre 2. Voici l'histoire. Durandeau est un industriel original et inventif, riche à millions, qui fait aujourd'hui de l'art en matière commerciale. Il gémissait depuis de longues années, en songeant qu'on avait encore pu tirer un sou du négoce des filles laides. Quant à spéculer sur les jolies filles, c'est là une spéculation délicate, et Durandeau, qui a des scrupules d'homme riche, n'y a jamais songé, je vous assure. N'y a jamais songé, je vous assure. Un jour, soudainement, il fut frappé par le rayon d'en haut. Son esprit enfanta l'idée nouvelle, tout d'un coup, comme il arrive aux grands inventeurs. Il se promenait à pas lents sur le boulevard lorsqu'il vit trotter devant lui deux jeunes filles, l'une belle, l'autre laide. Et voilà qu'à les regarder, il comprit que la laide était un ajustement dont se parait la belle. De même que les rubans, la poudre de riz, les nattes fausses se vendent, il était juste et logique, se dit-il, que la belle acheta la laide comme un ornement qui lui seyait. Durandeau rentra chez lui pour réfléchir à l'aise. L'opération commerciale qu'il méditait demanda à être conduite avec la plus grande délicatesse. Il ne voulait pas se lancer à l'aventure dans une entreprise, sublime si elle réussissait, ridicule si elle échouait. Il passa la nuit à faire des calculs, à lire les philosophes qui ont le mieux parlé de la sottise des hommes et de la vanité des femmes. Le lendemain, à l'aube, il était décidé. L'arithmétique lui avait donné raison. Les philosophes lui avaient dit un tel mal de l'humanité qu'il comptait déjà sur une nombreuse clientèle. Chapitre 3. Je voudrais avoir plus de place, et j'écrirai ici l'épopée de la création de l'agence Durando. Ce serait là une épopée burlesque et triste, pleine de larmes, de grimaces et d'éclats de rire. Durando eut plus de peine qu'il ne pensait pour pouvoir former un fonds de marchandises. Voulant agir directement, il se contenta d'abord de coller le long des tuyaux de descente, comme les pans de mur, dans les endroits écartés, de petits carrés de papier sur lesquels ces mots se trouvaient écrits à la main. On demande des jeunes filles laides pour faire un ouvrage facile. Il attendit 8 jours, et pas une fille laide ne se présenta. Il en vint 5 ou 6 jolies qui demandèrent de l'ouvrage en sanglotant. Elles étaient entre la misère et le vice, et elles songeaient encore à se sauver par le travail. Durando se trouva fort embarrassé. Il leur dit et leur répéta qu'elles étaient jolies et qu'elles ne pouvaient lui convenir. Les jeunes filles soutinrent qu'elles étaient laides, que c'était pure galanterie et méchanceté de sa part s'il les déclarait belles. Il est à croire que les chers enfants, ne pouvant vendre la laideur qu'elles n'avaient pas, ont vendu aujourd'hui la beauté qu'elles avaient. Durando, devant ce résultat, comprit qu'il n'y a que les belles filles qui ont le courage d'avouer une laideur imaginaire. Quant aux laides, jamais elles ne viendront d'elles-mêmes convenir de la grandeur de leur bouche, ni de la petitesse de leurs yeux. Affichez sur tous les murs de Paris que vous donnerez 10 francs à chaque laideron qui se présentera, et je vous assure que vous ne vous appauvrirez guère. Durando renonça aux affiches. Il engagea une 12 de courtiers et les lâcha dans la ville en quête de monstres. Ce fut un recrutement général de la laideur de Paris. Les courtiers, hommes de tact et de goût, eurent une rude besogne. Ils procédaient suivant les caractères et les positions. Brusquement, lorsque le sujet avait de pressants besoins d'argent, avec plus de délicatesse quand ils avaient affaire à quelques filles ne mourant point encore de faim. Il est dur, croyez-le, pour des gens polis, d'aller dire à une femme « Madame, vous êtes laide, je vous achète votre laideur, attends la journée. » Il y eut dans cette chasse donnée aux pauvres filles qui pleurent devant les miroirs des épisodes mémorables. Parfois, les courtiers s'acharnaient. Ils avaient vu passer dans une rue une femme d'une laideur idéale, et il tenait à la présenter à Durando pour mériter les remerciements du maître. Il y en eut qui eurent recours aux moyens extrêmes. Chaque matin, Durando recevait et inspectait la marchandise racolée la veille, largement installée dans un fauteuil, en robe de chambre jaune et en calotte de satin noir. Il faisait défiler devant lui les nouvelles recrues, accompagnées chacune de leurs courtiers. Alors, il se renversait en arrière, clinait les yeux, faisait de petites mines d'amateur contrariés ou satisfaits. Il prenait lentement une prise et se recueillait. Puis, pour mieux voir, il faisait tourner la marchandise, l'examinant sur toutes les faces. Parfois même il se levait, touchait les cheveux, examinait la face, comme un tailleur palpe une étoffe, ou encore comme un épicier s'assure de la qualité de la chandelle ou du poivre. Lorsque la laideur était bien accusée, lorsque le visage était commun, bête, Durando se frottait les mains, il félicitait le courtier, il aurait même embrassé le monstre. Mais il se défiait des laideurs originales. Quand les yeux brillaient, et que les lèvres avaient des sourires étranges, il fronçait le sourcil et se disait tout bas qu'une pareille laide, si elle n'était faite pour l'amour, était faite souvent pour la passion. Il témoigne quelque froideur au courtier, et disait à la femme de repasser dans plusieurs années lorsqu'elle serait vieille. Il n'est pas aussi aisé qu'on peut le croire de se connaître en laideur, de composer une collection de femmes vraiment laides, ne pouvant nuire aux belles filles. Durando fit preuve de génie dans les choix auxquels il s'arrêta. Il montra quelle connaissance profonde il avait du cœur et des passions. La grande question pour lui fut la physionomie, et il ne retint que les faces décourageantes, celles qui glacent par leur nullité et leur immobilité idiote. Le jour où l'agence fut définitivement montée, où il put offrir aux jolies filles sur le retour des LED assorties à leur couleur et à leur genre de beauté, il lança le prospectus suivant. Chapitre 4. Agence des repoussoirs, L. Durando, 18 rue M, à Paris. Les bureaux sont ouverts de 10h à 4h. Paris, le 1er mai, 1800 quelque chose. Madame, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je viens de fonder une maison, appelé à rendre les plus grands services à l'entretien de la beauté des dames. Je suis inventeur d'un article de toilette qui doit rehausser d'un nouvel éclat les grâces accordées par la nature. Jusqu'à ce jour, les ajustements n'ont pu être dissimulés. On voit la dentelle et les bijoux, On sait même qu'il y a de faux cheveux dans le chignon et que le pourpre des lèvres et le rose tendre des joues sont d'habiles peintures cachant les pâleurs de la chair. Moi, j'ai voulu réaliser ce problème. Impossible au premier abord, de parer les dames, de leur donner plus de beauté, tout en laissant ignorer aux passants d'où vient cette grâce nouvelle, sans ajouter un seul ruban, sans toucher au visage, et trouver pour elles un moyen d'attirer les regards et de ne pas faire ainsi de courses inutiles. Je crois pouvoir me flatter d'avoir résolu entièrement le problème difficile que je m'étais posé. Aujourd'hui, toute dame qui voudra bien m'honorer de sa confiance obtiendra, dans les prix doux, l'admiration de la foule. Mon article de toilette est d'une simplicité extrême et d'un effet certain. Je n'ai besoin que de le décrire, madame, pour que vous en compreniez tout de suite le mécanisme. N'avez-vous jamais vu une mendiante auprès d'une belle dame en soie et en dentelle qui lui donnait l'aumône de sa main gantée? Avez-vous remarqué combien la robe bleue ou verte luisait, se détachant sur les haillons? Combien toute cette richesse s'étalait et gagnait d'élégance auprès de toute cette misère. Madame, j'ai à offrir au beau visage la plus riche collection de visages laids qu'on puisse voir. Les vêtements troués font valoir les habits neufs, mes faces laides font valoir les jeunes et jolies faces. Plus de fausses dents, de faux cheveux, de fausses gorges, plus de maquillage, de toilettes dispendieuses, de dépenses énormes en poudre de riz et en dentelle. De simples repoussoirs que l'on prend au bras et que l'on promène sur les trottoirs pour rehausser sa beauté et se faire regarder tendrement par les jolis messieurs. Veuillez, madame, m'honorer de votre clientèle. Vous trouverez chez moi les produits les plus laids et les plus variés. Vous pourrez choisir, assortir votre beauté au genre de laideur qui lui convient. J'ose dire, sans vanité, que j'ai dans mes magasins les laiderons les plus atroces de tout Paris. Tarif? La course, 5 francs l'heure. La journée entière, 50 francs. Veuillez agréer, madame, l'assurance de mes sentiments distingués. Durando. Nota bene. L'agence tient également les mères et les pères, les oncles et les tantes. Prix modéré. Chapitre 5. Le succès fut grand. Dès le lendemain, l'agence fonctionnait. Le bureau était encombré de clientes qui choisissaient chacune son repoussoir et l'emportaient avec une joie féroce. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a de volupté pour une jolie femme à s'appuyer sur le bras d'une femme laide. On allait grandir sa beauté et jouir de la laideur d'une compagne. Durando est un grand philosophe. Il ne faut pas croire pourtant que l'organisation du service fut facile. 1000 obstacles imprévus se présentèrent. Si l'on avait eu de la peine à monter le personnel, on eut plus de peine encore à satisfaire les clientes. Une dame se présentait et demandait un repoussoir. On lui étalait la marchandise, lui disant de choisir, se contentant de lui donner quelques conseils. Voilà la dame, allant d'un repoussoir à l'autre, dédaigneuse, trouvant les pauvres filles ou trop ou pas assez laides, prétendant qu'aucune des laideurs ne s'assortissait avec sa beauté. Les commis avaient beau lui faire valoir le nez de travers de celle-ci, l'énorme bouche de celle-là, le front écrasé et l'air bête de cette autre. Ils en étaient pour leur éloquence. D'autres fois, la dame était horriblement laide elle-même, et Durando, s'il était là, avait de folles envies de se l'attacher à prix d'or. Elle venait rehausser sa beauté, disait-elle, elle désirait un repoussoir jeune et pas trop laid, n'ayant besoin que d'un léger ornement. Les commis désespérés la plantaient devant un grand miroir et faisaient défiler à son côté tout le personnel. Elle emportait encore le prix de laideur et se retirait, indignée qu'on eût osé lui offrir de pareils objets. Peu à peu, la clientèle se régularisa et chaque repoussoir eut ses clientes attitrées. Durando put se reposer dans la jouissance intime d'avoir fait faire un nouveau pas à l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'état de repoussoir. S'il a ses joies, qui rit en plein soleil, il a aussi ses larmes cachées. Le repoussoir est laid. Il est esclave. Il souffre d'être payé parce qu'il est esclave et qu'il est laid. D'ailleurs, il est bien mis. Il a bijoux et robes à volant. Il donne le bras aux célébrités de la rue, vit dans les voitures, mange chez les cabaretiers en renom, passe ses soirées au théâtre. Il tutoie les belles filles et les naïfs. Le croix de ce beau monde des courses et des premières représentations. Tout le jour, il est en gaieté. La nuit, il pleure. Il a quitté cette toilette qui appartient à l'agence. Il est seul dans sa mansarde, en face d'un morceau de glace qui lui dit la vérité. Sa laideur est là, toute nue, et il sent bien, le pauvre repoussoir, qu'il ne sera jamais aimé. Il vit dans le monde des amours, il sert à faire naître les tendresses, et jamais il ne connaîtra le goût des baisers. Chapitre 6. Je n'ai voulu aujourd'hui que raconter la création de l'agence et transmettre le nom de Durando à la postérité. De tels hommes ont leur place marquée dans l'histoire. Un jour peut-être, j'écrirai les confidences d'un repoussoir. J'ai connu une de ces malheureuses filles qui m'a navré en me disant qu'elles avaient été jour par jour ses souffrances. Elle a eu pour clientes des filles que tout Paris connaît et qui ont montré bien de la dureté à son égard. Par pitié, mesdames, ne déchirez pas les dentelles qui vous parent. Soyez douces pour les laides sans lesquelles vous ne seriez point jolies. Mon repoussoir était une âme de feu qui, je le soupçonne, avait beaucoup lu Walter Scott. Je ne sais rien de plus triste qu'un bossu amoureux ou qu'une laide broyant le bleu de l'idéal. La malheureuse aimait tous les garçons dont son lamentable visage attirait les regards et les faisait se fixer sur celui de ses clientes. Supposez le miroir amoureux des alouettes qu'il appelle sous le plomb du chasseur. Elle a vécu bien des drames. Elle avait des jalousies terribles contre ces femmes qui la payaient comme on paye un pot de pommade ou une paire de bottines. Elle était une chose louée à tant l'heure, et il se trouvait que cette chose avait des sens et une âme. Vous figurez-vous ses amertumes et ses désespoirs, tandis qu'elle souriait, tutoyant celle qui lui volait sa pauvre petite part d'amour. Elle se sentait écrasée par ces belles filles qui prenaient un méchant plaisir à la traiter en amie devant la foule et en servante dans l'intimité. Elle avait cet effroyable malheur d'appartenir à ces folles qui l'auraient brisée par caprice, comme elles brisent les magots de leurs étagères. Mais qu'importe au progrès, une pauvre âme qui souffre. L'humanité marche en avant. Durando sera béni des âges futurs parce qu'il a mis en circulation une marchandise morte jusqu'ici et qu'il a inventé un article de toilette qui facilitera l'amour dans le monde entier.